12 à 20. Chapitre 6, 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Alors glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. S'il vous plaît, restez debout. Merci, Pasteur Vin, pour lire la parole. Prions. Alors, Père, nous nous rabaissons devant toi pour reconnaître que tu es Dieu et que nous ne sommes pas. Nous te remercions parce que tu t'es révélé et ta volonté à nous. Tu as, à travers ta parole et à travers l'histoire humaine, et plus profondément à travers Jésus, ton Fils. Alors, et nous sommes reconnaissants que tu as révélé ta vérité. Tu nous as révélé ta vérité. Le passage qui a été lu aujourd'hui par le pasteur Vin, certains d'entre nous vont dire, « Oh, ça c'est exactement ce à quoi je crois. » Et d'autres peuvent être confus et lutter contre toutes ces paroles. Alors, Seigneur, demandons la grâce à travers pour nous tous que nous puissions bien écouter ta parole et que ça puisse s'enraciner, ça puisse grandir et porter des fruits. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans le passage d'aujourd'hui, si vous avez entendu avec attention, Paul demande aux chrétiens de Corinthe trois fois, « Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? » Peut-être avez-vous déjà vécu l'expérience d'expliquer quelque chose à quelqu'un plusieurs fois, un ami, un enfant, un conjoint, et en réponse, il pose sans cesse la même question. Finalement, vous demandez avec exaspération, qu'est-ce que tu ne comprends pas ici? Le comédien et podcasteur britannique bien connu, Russell Brand, un hedoniste proclamé, a déclaré que c'était ce passage biblique 1 Corinthiens 6, 12 à 20 qui l'avait réellement convaincu de sa faute. Comment ne savait-il pas que le corps humain est beau et sacré? Comment ne savait-il pas que les personnes ne doivent pas être objectivées? Comment pouvait-il pas le savoir? Pourquoi les habitants de Corinthe ne savaient-ils pas que le corps humain était beau et sacré? Situé stratégiquement entre deux ports, Corinthe était pratiquement identifié. Identifié à la déesse de l'amour, et c'était l'équivalent de New York, de Los Angeles et de Las Vegas. Mais alors, il est important pour nous aujourd'hui, dans notre génération, de savoir que nous ne sommes pas la première génération, n'est pas à être caractérisée par une obsession sur le sexe. Corinthe était aussi désordonnée que nous le sommes aujourd'hui, peut-être plus. Nous devrions savoir que ce qui se passe dans la culture canadienne à notre époque n'est pas le fruit de l'illumination chrétienne ou de l'évolution morale. C'est en réalité une régression à la façon dont les choses ont toujours été à travers le monde depuis le début de l'histoire humaine. Nous sommes dans une saison de la dégradation morale. La vérité, la véritable révolution sexuelle fut la transformation de l'Empire romain de villes comme Corinthe et Rome sous l'influence du c'est la vraie révolution, c'est celle qui s'est passée là, à cette époque où les hommes furent contenus et les femmes libérées par les relations monogamiques hétérosexuelles par la chrétienté. Qu'est-ce qui se passe entre cette époque et aujourd'hui? Pourquoi pourrions-nous ne pas savoir aujourd'hui que le corps humain est beau et sacré? En Amérique du Nord, depuis les années 60, les hommes et femmes ont cherché de plus en plus à être fidèles à eux-mêmes. Plutôt que de reconnaître qu'ils ont été créés par Dieu à son image et qu'ils déterminent ce qui est vrai et qu'ils doivent se conformer à sa ressemblance, les hommes et les femmes ont plutôt fait de leur vie intérieure la source de la vérité. Nous vivons dans une époque de ce qu'on appelle l'individualisme expressif. Chaque personne cherche à exprimer sa vie intérieure plutôt qu'à s'identifier à une communauté humaine, encore moins de se soumettre au dessein de Dieu. L'authenticité envers ses sentiments intérieurs règne en maître. Le mariage et la famille monogame hétérosexuelle sont considérés comme des constructions oppressives, car ils font obstacle à la libre expression de soi. En conséquence, le débat est passé de la promiscuité sexuelle des années 60 jusqu'au transgenrisme aujourd'hui. Et il n'est pas surprenant que le moi soit devenu sexualisé. On dit que pour être fidèle à soi-même, il faut être fidèle à ses désirs sexuels intérieurs, quels qu'ils soient. Plutôt que de découvrir ce que signifie être un homme ou une femme, un mari ou une épouse, un père ou une mère, beaucoup sont obsédés par l'identité du genre et l'orientation sexuelle. Ces identités et orientations sont basées sur des sentiments intérieurs, non sur la raison ou la nature, encore moins sur la révélation divine. Aujourd'hui, nous sommes si loin de l'évidence que nous contemplons d'avoir des questions comme qu'est-ce qu'est un homme, qu'est-ce qu'une femme. Et le nouveau moi sexualisé, quelle que soit la façon dont il s'exprime, exige d'être affirmé. Quelle que soit l'expression, si vous voulez avoir une idée sur les choses que je suis en train de parler, lisez Carl Truman qui a écrit « Les Strange New World », comment les penseurs et les activistes ont redéfini l'identité et la révolution sexuelle. Il n'est pas non plus surprenant des slogans comme « Mon corps, mon choix. » Ce slogan signifie simplement que j'ai le droit de déterminer ce que je fais de mon corps. Personne d'autre. Je me possède moi-même et j'ai choisi ce que j'ai fait avec de mon corps, y compris le droit d'avorter, de changer mon sexe ou d'accéder à l'aide médicale pour mourir. Une dernière chose. Notre société considère qu'il y a une ligne nette entre le moi personnel et l'école physique. C'est que le moi identité unique, l'esprit volontaire. Et ce que vous faites avec le corps n'affecte pas le moi. Et c'est ainsi que pensaient les Corinthiens. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Notre culture canadienne est retournée à Corinthe, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Cette phrase, tout m'est permis, entre guillemets, c'est un slogan en vogue parmi les Corinthiens libres penseurs pour sanctionner leur comportement. Les Corinthiens disaient, j'ai le droit de faire tout ce que je veux avec mon corps. Dans une cité grecque comme Corinthe, qu'ils soient célibataires ou mariés, il était courant que les hommes aient des relations sexuelles avec plus de femmes. Le philosophe grec Épictète écrivait ceci, « Est libre celui qui vit comme il veut, qui n'est soumis ni à la contrainte, ni à l'entrave, ni à la force, dont les choix sont libres, dont les désirs atteignent leur but, dont les aversions ne tombent pas dans ce qu'il éviterait. Aucune honte n'était attachée à satisfaire ses désirs sexuels. » Que ce soit par la fornication, la prostitution, l'homosexualité, la pédophilie ou la pornographie, rien de ce qui était fait dans le corps n'avait vraiment d'importance, car cela n'affectait pas le moi personnel, l'âme. Malheureusement, cette façon de penser corinthienne avait infiltré la pensée de l'Église, la vie de l'Église. Ils étaient venus à croire que le corps physique était exclu de la rédemption. Par conséquent, ce qu'on faisait avec le corps n'affectait pas sa relation avec Dieu. Et ce qui ne touchait pas l'âme était simplement sans importance pour les chrétiens. C'est ce qu'ils pensaient. Pour les chrétiens corinthiens, c'est ce qu'ils pensaient. Au verset 13, la première partie, nous avons un autre slogan corinthien. Les aliments sont pour le ventre et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Si vous êtes un amateur de bonne chair, la première partie de cette citation pourrait être votre devise. Vous avez une fondation biblique pour vous réjouir de toute la bonne chair. Pourquoi ce slogan est-il placé ici? Les chrétiens de Corinthe avaient adopté ces 10 tons de la culture environnante pour légitimer leur comportement. On a un estomac pour diriger la nourriture et les crampes de faim pour annoncer quand il est temps de manger. De même, les organes sexuels existent pour être utilisés et les appétits sexuels doivent être satisfaits. Le corps, les appétits du corps, les corps méritent d'être nourris de tous ces désirs. Que dira Paul aux chrétiens corinthiens? Puis-je dire ce que Paul dit aux Corinthiens est très pertinent pour nous aujourd'hui? Cela révèle la vérité divine. Alors, si vous n'êtes pas un disciple de Jésus, vous pourriez vraiment lutter avec ce que dit la Bible ici. Et en tant que chrétien, vous pouvez deux fois aussi lutter avec. C'est une conversation interne pour les disciples de Jésus. En même temps, nous prenons la Bible comme autoritative. Alors je prie que vous voyez la beauté et la sagesse de la vision biblique de la sexualité. Voici la traduction fidèle du texte. Paul commence par une thèse générale au verset 13. Le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Que signifie inconduite sexuelle? Le mot grec est pornéa, d'où vient notre terme pornographie. La parole de Dieu utilise pornéa comme un terme générique pour toute activité sexuelle en dehors du mariage hétérosexuel, monogame, fornication, homosexuel, adultère, inceste, pédophilie et pornographie. La parole de Dieu déclare « Votre corps physique est pour Jésus et Jésus pour votre corps. » Votre corps physique est pour Jésus et Jésus pour votre corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Un disciple de Jésus trouve son union en Jésus, non dans l'inconduite sexuelle. Ainsi, tout ce qui compromet ou sape son union avec Jésus n'est pas permis. Tout n'est pas utile. Certaines choses peuvent nous dominer. Le péché sexuel nous maîtrise. et nous asservir. Les désirs sexuels peuvent nous asservir. Le professeur d'Oxford et auteur C.S. Lewis écrit « La liberté est la capacité de faire ce que l'on doit. Agir toujours selon ses désirs n'est pas la liberté, mais l'esclavage. Et l'esclavage sous un maître dur. Même un animal ou un esclave peut vivre selon ses désirs. » La vraie liberté chrétienne n'est pas seulement une liberté de quelque chose, mais pour être significative, elle doit être une liberté pour quelque chose. Ou pour s'attacher encore à la, plus profondément à la parole, un disciple de Jésus vit pour Jésus dans tous les domaines de la vie et dans toute son existence, corps et âme. La liberté du disciple est pour la gloire de Dieu et le bénéfice des autres, les biens des autres. La liberté chrétienne ne permet pas de poursuivre le plaisir où qu'il mène. Pour les chrétiens, la liberté n'est pas l'intérêt personnel, l'autodétermination ou l'autosatisfaction. La liberté se trouve dans l'appartenance à Jésus. Plus on est uni à Jésus, plus on est libre. Alors, la sagesse consiste à voir notre sexualité du point de vue de Jésus. Et la perspective de Jésus commence par la fin et notre destination. Paul va suivre cette perspective. Il remonte jusqu'à l'origine de notre rédemption. Et il va commencer là où notre rédemption commence, verset 14. Et Dieu a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alors, la résurrection de Jésus n'était que la première étape de la résurrection à venir, c'est-à-dire la résurrection de tous ses disciples à son retour. Nos corps physiques sont unis au Christ ressuscité et sous forme ressuscitée seront éternels. Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps sera ressuscité ?» Les promesses futures concernent non pas la rédemption de nos corps, mais la rédemption de nos corps. Sachant cela, nous devons réaliser ce que nous faisons maintenant de notre corps est de la plus haute importance. Nous devons vivre pour Jésus maintenant, sachant que nous sommes destinés à vivre éternellement avec lui. L'inconduite sexuelle est totalement incompatible avec la vie de la résurrection. Paul poursuit. « Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Loin de là. Comme la société autour d'eux, corinthiens, certains chrétiens de Corinthe utilisaient des prostituées pour satisfaire leurs désirs sexuels, arguant que cela n'affectait pas leur âme. Paul a une question pour eux. Ne savez-vous pas? Vous êtes un avec Jésus. Ne savez-vous pas? Comment quiconque peut-il penser qu'il est acceptable de prendre une personne appartenant à Jésus, de l'éloigner de lui, puis de l'unir à quelqu'un qui incarne tout ce que Jésus n'est pas? Comment quelqu'un qui appartient à Jésus peut-il livrer son corps à une personne membre d'un royaume en guerre contre Jésus? Comment est-ce possible? Le corps d'un disciple de Jésus appartient à Jésus. Ce corps est uni avec lui. Un commentateur biblique, Styler, écrit « La vie que nous devons vivre n'est pas seulement celle à laquelle Christ nous appelle. C'est la vie du Christ lui-même. Car Jésus ne me dit pas simplement d'être moi-même. Il m'appelle à vivre en lui. » Un disciple de Jésus est uni à Jésus. Alors, ceux qui sont baptisés aujourd'hui, qui ont confessé qu'ils sont pécheurs, mais qui sont aussi sauvés par la grâce à travers la foi en Jésus-Christ, et étant sauvés par la grâce, ils sont un avec lui. C'est ça la confession, c'est la nouvelle identité. Cette union exige que Jésus ait la charge de l'usage de nos corps. L'union avec une prostituée viole cette réalité. Lorsque vous vous livrez à l'inconduite sexuelle, quelle qu'en soit la forme, vous invitez les diables à saccager votre corps et votre âme. Ce n'est jamais neutre. Laissez-moi le dire encore. Lorsque vous vous livrez à l'inconduite sexuelle, quelle qu'en soit la forme, vous invitez le diable à saccager votre corps et votre âme. Pourquoi Paul est-il si catégorique? Exagère-t-il pour faire passer son message? Paul continue, verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Bien sûr, nous pouvons croire que c'est juste occasionnel, c'est juste une liaison occasionnelle. Une personne pourrait penser que ce n'est qu'une union sexuelle passagère, et l'un a besoin de se soulager sexuellement et l'autre de gagner sa vie. En réalité, cependant, l'union sexuelle est bien plus aliénante. Ce n'est jamais une simple expérience physique agréable entre deux adultes consentants, comme un seau qui n'a pas d'effet sur le corps et l'âme de l'un ou l'autre. C'est juste pas comme un saut en parachute en tandem ou pour quelques secondes. Souvent, on parle de sexe comme si on savait de quoi on parlait. Essentiellement, un plaisir physique ou peut-être une connexion émotionnelle. Le seul désaccord porte sur les limites à imposer dans notre société là, aux relations sexuelles, l'âge, le consentement, le sexe du partenaire. Le nombre de partenaires, plus, ce n'est même plus une question aujourd'hui. Et lien de parenté. Paul revient à la création pour son fondement biblique. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair désigne une union physique durable à travers les relations sexuelles. Le sexe engage toute personne, corps et âme, livrée à une autre. Ce n'est jamais le simple accouplement de deux corps physiques. Jamais. Toutes les relations sexuelles fusionnent les partenaires. Ceci dit, si vous êtes unis à une prostituée, vous devenez une seule chair avec elle. L'auteur britannique Louis Perry raconte son histoire dans son livre « A Case Against the Sexual Revolution ». En tant que féministe radicale, elle croyait que la maturité consistait à pouvoir avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des multiples partenaires sans être émotionnellement affectée. En aidant les femmes fouillant des relations dans sa propre expérience, des relations abusives, elle a découvert que cette croyance était une absurdité totale. J'ignore quelle fois, si c'est le cas, quand elle a écrit, elle n'écrit pas son livre en tant que disciple confessante de Jésus, mais sa conclusion vous surprendra. Elle affirme que pour bâtir une société saine, nous avons besoin de, aujourd'hui, nous avons besoin des mariages hétérosexuels, monogames et durables. Qui aurait pu croire à cela? Nous avons besoin d'une nouvelle révolution. Paul écrirait, ne saviez-vous pas? Tout ce qui rend le sexe délicieux, physique, émotionnel, hormonal, spirituel, est conçu pour renforcer le lien entre le mari et la femme et leur permettre d'affronter ensemble les défis de la grossesse, de la naissance, de la parentalité. C'est pourquoi un mariage doit être une relation d'alliance exclusive à vie entre un homme et une femme. Tout ce que nous faisons contre cela, brise ce que Dieu a fait. Paul écrit dans Éphésiens 5, 31-32, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le sexe est beau, il est sacré, c'est un don de Dieu, mais le sexe n'est pas la chose ultime. Il est une ombre, dont l'accomplissement véritable se trouve dans l'amour que Jésus porte à ses disciples, son corps sur terre. Le sexe est un signe vers une autre réalité et c'est ce qui le rend mystérieux, significatif, merveilleux et transcendant. C'est une parabole de l'Évangile et c'est quand vous comprenez cela, vous ne donnerez jamais, vous ne vous laisserez jamais dans la sexualité immorale, dans l'immoralité sexuelle. L'activité sexuelle en dehors du mariage est un péché à la fois contre Jésus. C'est un péché grave, sans parler du péché d'objectiver une autre personne créée à l'image des dieux. L'inconduite sexuelle détournera nos cœurs de Jésus vers d'autres dieux. Le disciple de Jésus qui s'engage dans la conduite sexuelle, il est immobilisé. La sexualité, l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie vont toujours ensemble. Ça détruit les mariages, ça détruit les familles. Elle ne reste jamais confinée au monde du plaisir. Ça conduit toujours à l'abus, à la destruction, à la mort de personnes. Elle ne reste jamais confinée au monde de plaisir innocent. Jamais s'imaginer que c'est quelque chose d'innocent, un plaisir innocent qui ne nuit à personne. Ça, c'est le mensonge du diable. Et c'est pourquoi Paul écrit si catégorique, fouillez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Que veut-il dire? L'ivrognerie et la gourmandise sont des péchés contre le corps, mais l'ivrogne ne fait pas de vous une seule chair avec l'alcool, et la gourmandise ne fait pas de vous une seule chair avec la nourriture. L'union sexuelle, par contre, avec une prostituée, souille de manière unique le corps et l'âme. Elle viole notre union avec Christ. Et de ce point de vue, j'espère que Paul a terminé. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ne savez-vous pas qu'en tant que disciple de Jésus, l'Esprit même de Dieu habite en vous? Votre personne est un lieu sacré pour la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu a créé votre union avec Jésus et fait de votre corps son temple. Ne le savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'inconduite sexuelle ne fait pas que souiller, profaner ou saccager le temple du Saint-Esprit, mais elle rejette aussi la vie que Dieu a donnée. En tant que pasteur, j'ai entendu beaucoup de raisons pour les disciples de Jésus. En tant que pasteur, j'ai entendu tant de justifications pour s'écarter de la norme biblique. J'ai entendu comme ceci: je sais que Dieu demande la pureté, mais j'ai besoin de satisfaire mes désirs sexuels. Je ne suis qu'un humain. Paul n'avait pas de problème avec les sexes extra-conjugales, seulement avec la prostitution. Où j'entends deux fois: nous vivons ensemble, mais nous prévoyons de nous marier. Pasteur, je sais que je ne devais pas commettre l'adultère, mais mon conjoint et moi sommes incompatibles. Après tout, nous nous aimons. Comment Dieu pourrait-il être contre cela? Et bien plus, Paul n'a pas encore fini. Verset 19-20. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Le langage vient directement du marché aux esclaves de Corinthe, où Corinthe était un immense centre de traite d'esclavage. Il dit, les disciples de Jésus ont été achetés par Dieu, sauvés de l'esclavage du péché et du diable. Mais les prix étaient extrêmement élevés, plus que ce qu'une personne ne pourrait jamais payer. Ne savez-vous pas que vous avez été achetés par Dieu le Père? Ne savez-vous pas que vous étiez sur un marché aux esclaves, enchaînés par le péché, sous le règne de Satan, destinés à l'enfer, et que le Père vous a tendu la main par amour, alors que vous ne le méritiez pas? Ne savez-vous pas que votre prix d'achat fut le sang précieux de Jésus-Christ? Ne savez-vous pas? Alors que vous étiez encore pécheurs, Jésus est venu et a donné sa vie pour vous. Il vous a aimé jusqu'à la fin. Ne savez-vous pas que Jésus vous a son corps déchiré, son sang versé pour votre rançon? Ne savez-vous pas? Ne soyez pas trompés par le grand mensonge, mon corps, mon choix. Ne dites pas, tout m'est permis. Ne dites pas, je peux faire ce que je veux avec qui je veux, quand je veux. Ne dites jamais, je vais juste être moi-même. Ne soyez pas séduits par le mensonge de notre société. Ne dis jamais, je vais juste suivre la fluidité de mes sentiments intérieurs. C'est précisément la pensée d'un... je sais pas si je peux dire plus clairement que ça. Juste suivre tes pensées, c'est pas mature, c'est pas. Nous avons été rachetés pour une vie où le péché sexuel est impensable. Dans la vie et dans la mort, vous appartenez votre corps et âme à votre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est le fondement d'une vie de pureté sexuelle. Le point a été fait, c'est clair. C'est ça le point de Paul. Vous pouvez ne pas croire, mais c'est ça la fondation. Le disciple de Jésus est un avec Jésus. En tant que disciple de Jésus, je peux vous dire à vous, disciple de Jésus, je ne suis pas à moi, vous n'êtes pas à vous. Le seul but de nos vies est de glorifier Dieu. Et c'est pourquoi Paul finit avec ces mots au verset 20. Alors, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Maintenant, j'imagine que certaines personnes vont avoir des questions. C'est pourquoi nous faisons le podcast. C'est pourquoi nous voulons que vous envoyez vos questions alors pour que nous puissions répondre à ces questions. Notre Église a aussi une déclaration sur la sexualité que vous pouvez trouver dans le centre de recherche de notre centre de ressources ou sur notre site web. Et je dirais aussi, à certains niveaux, nous tous marchons dans le brisement, dans le péché. Nous avons besoin d'aide aujourd'hui et demain. On doit faire face à des problèmes qui viennent de notre passé. Sachez que nous avons le ministère qui prend soin des gens. Sachez que vous n'êtes pas seul, nous voulons marcher avec vous. Donc ce ministère est là pour vous, le ministère de cœur, qu'on appelle le ministère de soins, qui est là pour vous. Nous allons... nous allons avoir la Sainte Cène et quand nous venons à la table du Seigneur, nous nous souvenons pourquoi nous devons honorer Jésus de tout notre être, corps et âme. Alors que nous étions pécheurs, Dieu le Père nous a rachetés par le sang précieux de Jésus. À cause de Jésus, nos corps sont désormais des temples du Saint-Esprit. Par l'Esprit, nous sommes maintenant avec Jésus, unis avec lui pour toujours. Et étant avec Jésus, nous ressusciterons corps et âme pour la vie éternelle avec Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont invités dans leur communion éternelle. Alléluia. Quel salut prodigieux. En un moment de recueillement silencieux, vous pouvez adorer, remercier, confesser vos péchés sur n'importe quelque chose qui vous vient à l'esprit. Souvenez-vous, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et il est présent pour nous purifier de toute... Prenons un moment de silence.